Ceci est un message du ministère de l'Éducation populaire.
On s'intéresse bien au système alimentaire, donc c'est-à-dire de la production à la consommation en passant par la transformation et la distribution. C'est bien un système, l'alimentation, et on a souvent tendance à prendre qu'un petit bout de la lorgnette. Ce qui vient spontanément en tête, enfin en tout cas pour les gens comme moi qui sont pas du milieu, c'est ce que j'ai dans l'assiette quoi. Et en fait, il y a quand même, on part quand même d'un constat assez évident et manifeste, c'est qu'on mange pas tous la même chose et qu'on n'a pas tous accès à la même alimentation. Et en fait, aujourd'hui, à travers le monde, il y a des gens qui crèvent de faim, alors que l'industrie agroalimentaire produit de quoi nourrir plus de 12 milliards d'êtres humains. Donc il y a comme un petit peu une incohérence. Bon, ça c'est au niveau international. Si on se focalise sur la société, en France. Pour le coup, il y a 5,5 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, durablement, donc de manière constante, quoi. Et l'aide alimentaire, c'est un truc sacrément pourri. C'est vraiment la charité dans tout ce qu'elle a de plus moche de la grande distribution qui surproduit de la bouffe de merde, hein, clairement, hein, qui nous rend malades, qui pollue et qui, au passage, exploite les êtres humains. Et du coup, qui se débarrasse de ces invendus pour nourrir des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter à manger, parce qu'en fait dans le budget de dépenses qu'on a, bah en fait il y a la part des dépenses contraintes et forcées quoi, elle a explosé. C'est le logement, c'est l'énergie, l'eau, et du coup bah c'est sur la bouffe qu'on rogne quoi. Et donc potentiellement des foyers qui se retrouvent à galérer de ouf pour acheter à manger et donc qui se retrouvent à dépendre de l'aide alimentaire. Ça passe par les associations caritatives et ce qu'on appelle les épiceries sociales et solidaires, ce genre de choses, avec du coup de la nourriture qui est soit distribuée gratuitement, soit accessible à très bas prix. Et ça, donc, c'est voilà 5,5 millions de personnes et c'est en train d'exploser. Et en plus, les chiffres, ils datent de l'avant-confinement. Le confinement a révélé l'ampleur du désastre, et là on est sur une belle courbe ascendante, enfin, ça va exploser dans les mois et les années qui viennent, ce truc-là. Et de l'autre côté, et à l'autre bout, et ben on est 10 à 20% de la population, on va dire, et je dis on parce que j'en fais partie, à avoir la capacité de s'acheter de la bouffe bio, locale, de saison, faite par le petit producteur d'à côté, que je sais d'où ça vient, et machin. Et qui est bonne pour ma santé. Et du coup, il y a un vrai enjeu là-dessus sur qui a accès à quoi. Aujourd'hui, l'immense majorité de la population, dont moi aussi d'ailleurs, on se nourrit des produits de l'industrie agroalimentaire, puisque c'est elle qui a la main sur la transformation et la distribution, donc aussi sur la production, et bien sûr donc sur la consommation. Et donc et du coup, cette industrie agroalimentaire, c'est le capitalisme à plein nez, quoi. C'est on produit, on surproduit, toujours en cassant plus possible les prix et la qualité de ce qu'on bouffe. Et en fait, aujourd'hui, on mange de la merde grave, quoi. Et ça pourrit la planète à fond. Et y a des enjeux financiers de ouf derrière. C'est vraiment les lobbies de l'industrie agroalimentaire font tourner la planète. Réchauffement climatique, blablabla. Bon, bah quand en fait on creuse le pourquoi du comment derrière, les questions agricoles, elles arrivent assez vite en fait. Et donc il y a des énormes enjeux là-dessus. Je vous épargne aussi toute la question des rapports Nord-Sud, pays enrichis, pays appauvris, hein, parce que voilà. Et donc après, si on rentre dans le détail, du coup, qui bosse dans cette filière? Donc on est bien d'accord que l'alimentation, c'est absolument indispensable, puisqu'on est tous obligés de se nourrir. Voilà, donc il y a l'image, ce qu'on a dans l'assiette, et puis il y a l'image du coup du paysan. Et c'est plutôt une image assez sympathique, quoi. Déjà, le paysan, c'est qui, c'est quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est sur des exploitations agricoles. Donc il y a 450 000 agriculteurs en France. Agricultrices aussi, mais enfin, c'est quand même toujours l'image de l'homme, hein, qu'on a d'abord. Il y a 600 000 ouvrières et ouvriers agricoles. Donc en fait, on a aussi une image très très fausse de qui sont les travailleuses et travailleurs de ce milieu-là. Comment ça marche, comment ça tourne, quoi. Avec des logiques d'accès à la terre, d'accès aux fonciers qui sont complètement capitalistes. Donc du coup, plus je suis gros, plus j'en achète, plus je m'engrosse et plus je m'enrichis. Et à l'inverse, être un petit paysan, c'est super chaud de s'en sortir économiquement, d'avoir accès à la terre, et puis même une fois que tu as accès à la terre, de t'en sortir. On a un énorme problème de renouvellement des générations sur la question agricole. Parce que c'est des métiers super durs, parce qu'il n'y a pas d'accès à la terre.
Dans les 7-8 ans, ça va être 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc avec un fort taux de renouvellement. Et donc un enjeu en fait sur qui va faire les terres. Et par exemple, quand il y a la Confédération paysanne qui parle de... Ils font 1 million de paysans paysannes pour une agriculture paysanne. Bah, ça veut dire qu'en fait, on parle à plus de 700 000 personnes, quoi, qui a installé demain. Et donc voilà, ça pose aussi l'état de la filière, en fait, en tout cas sur la partie paysannerie.
Je voulais quand même insister sur la question du coup des ouvrières et ouvriers agricoles, de qui sont-ils et elles. Les femmes sont invisibilisées mais sont hyper présentes dans ce domaine-là. Et c'est aussi toute la question, là pour le coup, des classes sociales à fond, avec tout l'enjeu des travailleurs étrangers, travailleuses, travailleurs étrangers. Voilà. D'ailleurs, on en a pas mal parlé pendant le confinement, parce que du coup, avec la fermeture des frontières, il n'y en avait plus, ils ne pouvaient plus venir. C'est quand même un milieu où il y a énormément d'exploitation dans la relation à l'emploi. Sur la partie transformation, donc ce qu'on appelle la transformation, c'est les abattoirs, c'est toutes les usines qui font que je passe des produits bruts à des plats tout faits, des produits transformés. Ça, par exemple, c'est les super grosses marques, les multinationales type Danone et compagnie, quoi. Et c'est de l'exploitation de ouf. Et là encore, qui bosse dans ces milieux-là, dans ces domaines-là, en fait, c'est beaucoup des femmes, beaucoup des personnes racisées, aux conditions de travail et à l'emploi qui a gerbé, et avec des actionnaires qui s'en mettent plein les fouilles, mais quelque chose de bien. On est vraiment sur des montants énormes. Et avec l'enjeu, ouais, de la dimension internationale de tout ça. La distribution. Et donc là, quand on dit distribution, on pense assez vite au supermarché, la grande distribution. Bon, bah là aussi, hein, on a quand même des beaux mastodontes en la matière, Carrefour, Super U, Auchan, je sais plus, il y en a plein d'autres, Leclerc, évidemment. Et du coup, là encore, on est sur des logiques de financiarisation, avec, voilà, le but, c'est de rémunérer les actionnaires, et les conditions de travail sont dégueulasses. Et l'image, quand on dit supermarché, on pense à qui ? À la caissière. La première de corvée. Et voilà, et du coup, là aussi, encore, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes racisées, beaucoup d'exploitation, des conditions de travail dégueulasses. Et sur la distribution, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi toute la partie restauration. Alors, restauration, on va dire, de loisirs, c'est sûrement pas le bon terme, mais enfin, je pense au restaurant, quoi. Où là aussi, on sait que c'est des conditions de travail de ouf, et avec beaucoup d'exploitation. De qui ? Des femmes, des personnes racisées, des personnes étrangères. Enfin. Et y a tout ce qui est restauration collective. Et là, il y a des énormes enjeux, potentiellement qui peuvent être super intéressants dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation, de, en fait, si on regarde où est-ce qu'on mange, en fonction de, voilà, dans nos quotidiens, bah, en fait, les enfants, ils mangent à la cantine. Les employés, souvent, il y a des restaurants d'entreprise. Donc, il y a pas mal d'enjeux aussi autour de la restauration collective. Et c'est bien pour ça que c'est hyper important de s'attaquer à l'ensemble du système. Et pas de le prendre qu'un petit bout. Et du coup, pour finir quand même, parce qu'en plus c'est un truc qui me tient vachement à cœur, c'est sur toute la question de la consommation, où là on se dit, bah, il n'y a pas de travail du coup, parce que c'est la consommation. Bah, en fait, si, il y a tout le travail gratuit des femmes, tout le travail invisible des femmes, parce que d'un point de vue sociétal, qui fait les courses, qui fait la cuisine, qui pense à nourrir la famille, en fait, ça repose énormément sur les femmes. Et c'est complètement invisibilisé. Et c'est tout l'enjeu du travail gratuit que portent les femmes, et en particulier les femmes hétéros, mères de famille. Et ce qui est intéressant, si on croise avec ce dont on parlait tout à l'heure sur l'aide alimentaire, en fait, le profil type de la personne pauvre en France, en fait, c'est une femme. Et d'ailleurs, plutôt une femme qui élève seule ses enfants. Tout est lié, quoi. Que du coup, les travailleuses pauvres de cette filière, c'est les mêmes qui se retrouvent à bouffer de la merde debout. Et donc, il y a quand même tout un enjeu là à vraiment avoir une approche globale, quoi.